Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Je voudrais revenir en début d'émission sur ce qui s'est passé sur les ondes de Cube Radio vendredi. Je faisais une entrevue avec Jean Héroldi, le designer et animateur bien connu qui, vous le savez, se lance en politique municipale pour devenir conseiller à Verdun-Île-des-Sœurs. Et je l'interviewais donc sur les ondes de Cube Radio au sujet d'un candidat, Antoine Richard, qui veut devenir maire de Verdun et qui, fait l'objet de révélations de la part du bureau d'enquête du Journal de Montréal, comme quoi il aurait eu des pratiques interdites dans différents flips immobiliers qu'il avait fait. Donc, j'ai posé ces questions-là à Jean Héroldi, qui me dit « Non, je défends Monsieur Richard, il a rien fait d'interdit, rien fait d'illégal. » Quelques heures seulement après la diffusion de notre entrevue, Ensemble Montréal et Jean Héroldi ont été obligés de présenter des excuses. Voici ce qu'a dit M. Héroldi ce matin au micro de Sophie Durocher en réponse à une question concernant un article du Journal de Montréal sur le candidat Antoine Richard. « J'ai laissé sous-entendre que ces actions n'étaient pas interdites. Après vérification, il y avait des pratiques interdites. Je m'excuse donc si mes propos ont pu induire en erreur les auditeurs. » Alors, je voudrais simplement dire, quand vous vous lancez en politique, que ce soit au niveau municipal, ou provincial, ou fédéral, avant de donner une entrevue à un journaliste, c'est peut-être une bonne idée de vérifier vos dossiers, de vérifier vos informations, parce que c'est sûr que les journalistes vont vous poser des questions. Et avant de dire, ce gars-là n'a rien fait d'interdit, je le défends, je suis très à l'aise avec ce qu'il répond, peut-être que ça aurait été une bonne idée que M. Héroldi a vérifié les informations. Au moins, il a eu la décence de s'excuser. Ensemble Montréal s'est excusé. Donc, si vous voulez réécouter cette entrevue, elle se trouve bien sûr sur le site de Cube Radio. Mais quand j'ai vu un candidat qui se lance en politique arriver aussi peu préparé, connaître si peu ses dossiers, j'ai poussé un découragé. Ben, voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Si j'avais envie d'être un petit peu baveuse, je dirais que le livre offensant de Guy Nantel, c'est un peu comme un livre de Mathieu Bock-Côté, mais avec moins de mots compliqués. J'ai vraiment dévoré ce livre-là, vraiment un livre qui décortique la rectitude politique, qui déboulonne un certain nombre de concepts. Guy Nantel est au bout de la ligne. Guy, bonjour.
Oui, salut Sophie.
Aimes-tu ma description quand je dis que c'est comme un livre de Mathieu Bock, mais avec moins de mots compliqués?
Juste le fait que tu nommes Mathieu Bock-Côté, c'est sûr que je vais recevoir des courriels haineux à cause de ça. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, c'est Sophie Durocher qui a dit ça. Alors, comprenez-moi bien, je ne me prends pas pour Mathieu Bock-Côté.
D'accord. Mais en fait, la seule chose que tu as quand même en commun avec Mathieu Bock-Côté, c'est qu'en effet, tu es parfois le mouton noir d'un certain nombre de gens. Je regarde par exemple la réaction des gens. Tu étais hier à Tout le monde en parle, une petite émission à Radio-Canada, pas très regardée, là, le dimanche soir. Non, c'est une blague. Et il y a des gens sur les médias sociaux qui s'en prennent à toi en disant « C'est effrayant, ils ont invité Guy Nantel, mais il n'y avait personne pour contrecarrer ses propos. » Alors que quand on reçoit quelqu'un de gauche, il n'y a jamais quelqu'un pour contrecarrer les propos. Tu trouves pas ça ironique que quand toi, tu t'en vas donner une entrevue à Tout le monde en parle, les gens disent « Ah, ben ça prenait quelqu'un pour dire le contraire de Guy Nantel. »
Tu as tout à fait raison. Je me suis fait la même réflexion en voyant des messages comme ça passer. Et j'ai eu aussi le même genre d'échange avec Stéphane Bureau où on disait que c'est
oui.
Drôle, mais quand tu ne te situes pas de façon assez prononcée à gauche, ben on ressent toujours le besoin de te recadrer, alors qu'en réalité, tu dis, mais mon Dieu, c'est pas comme si j'avais un discours d'extrême droite sur les ongles. Je pense être quelqu'un qui a beaucoup de compassion, puis qui fait une analyse vraiment fine de la société actuelle dans laquelle je vis. Mais on dirait que si tu ne communies pas à la chapelle de la bien-pensance, ben t'es automatiquement... alors que quand Guillaume Lepage avait reçu 4 personnes pour parler de racisme systémique, ben, il y avait 4 personnes qui disaient grosso modo exactement le même discours, puis personne n'était là non plus pour les confronter.
Tu as tout à fait raison. C'est bien que tu ramènes cet exemple-là, parce que c'était, en effet, ça aurait été l'occasion d'avoir, mettons, 2 personnes qui pensent en effet qu'il y en a, 2 personnes qui pensent au contraire qu'on devrait apporter des nuances, mais on ne les a pas eu, ces nuances-là. C'était vraiment 4 personnes.
On ne les a pas eu.
Voilà. Ouais. Justement, parlons-en du racisme systémique, parce que c'est un des 22 concepts, disons, que tu déboulonnes dans ton livre, mais avec beaucoup de respect, puis avec beaucoup, je dirais, d'argumentaire. C'est ça qui est le plus intéressant de ton livre, c'est qu'il est documenté, il est argumenté. On voit que tu as réfléchi. C'est pas un livre que tu as écrit sur le coin de ta table. Alors, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, pourquoi, toi, tu dis que oui, il y a du racisme au Québec, mais qu'il n'y a pas en tant que tel, qu'on ne peut pas parler de racisme systémique. Résume-nous ça brièvement, là.
Mon Dieu, il y a vraiment plusieurs raisons. Hier, j'ai évoqué, justement, tout le monde en parle, premièrement, la raison historique. Le racisme systémique vient des États-Unis des années 60, où il y avait un réel système qui était établi entre des politiciens, des directeurs de prisons, qui étaient des prisons à but lucratif, des juges qui envoyaient des gens, particulièrement de la communauté noire, en prison plus longtemps, donc des peines plus longtemps pour les mêmes crimes, pour pouvoir faire de l'argent en prison, qui retournaient de l'argent aux politiciens. Il y avait le redlining, qui était un système qui était établi pour faire en sorte que les Noirs qui achetaient des maisons allaient juste pouvoir en acheter dans les ghettos et que les banques ne prêtaient pas d'argent si ces gens-là voulaient acheter dans les quartiers de blancs. Ça, c'est la vraie définition du racisme systémique. Maintenant, on a évacué toute la notion de violence, parce que le racisme, il y a toujours une charge vraiment concrète de violence.
Oui, c'est de la haine. C'est de la haine.
Oui, de la discrimination, de la ségrégation. Et là, on dit maintenant, non, mais il y a pas de racisme, là. Il y a pas de, tu sais, il y a une journaliste du Devoir qui parlait du racisme systémique il y a pas longtemps, là, peut-être une semaine ou deux, puis elle a donné l'exemple des dermatologues qui suivent leur cours souvent avec des peaux blanches, hein, comme exemple. Évidemment, on est dans une société où essentiellement les gens, 85% ont la peau blanche, donc le réflexe normal, c'est ça. Puis elle disait, ben, les gens qui ont la peau noire, des fois, ont des maladies de peau qui sont mal diagnostiquées parce que les dermatologues n'apprennent pas avec ce genre d'exemple-là. Donc, voici un exemple de racisme systémique. Ben là, moi, je dis, non, ça, c'est pas du racisme systémique. Mais par contre, ton argument, il est intéressant de dire, on devrait sensibiliser les dermatologues à ça. Mais rentre-moi pas le terme racisme dans ce genre de situation-là, parce qu'il y a personne qui a aucune intention nulle part dans le système de nuire à qui que ce soit, mais des fois, il y a juste une incompétence culturelle, mm-hmm. Il y a peut-être un manque de sensibilité ou de sensibilisation, je devrais même plutôt dire que de la sensibilité, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils sont insensibles, c'est juste qu'on, des fois, on n'a pas pensé à certaines choses.
Voilà. Mais c'est ça, mais c'est ça que j'aime.
C'est assimilé. Mm-hmm. Oui, vas-y.
Oui, c'est ça, mais c'est ça que j'aime dans ton propos, Guy, c'est que c'est très pondéré. T'es pas un excité du bocal, ni dans un sens, ni dans l'autre. Tu dis, oui, prenons le temps de s'en parler sans que les gens soient dans les extrêmes et surtout sans que les gens soient constamment en train de se comporter comme une victime. Donc, ce que tu dénonces, en fait, dans ton livre, ça revient dans chacun des chapitres, c'est cette espèce de culture de la victimisation où il suffit que tu fasses une blague sur un sujet, quelqu'un se sent offensé, il suffit que tu dises, justement, que tu enseignes quelque chose à l'université, les gens se sentent offensés. Les gens se sentent toujours victimes de quelque chose.
Bien, c'est parce qu'à partir du moment où, dans la définition de racisme systémique, on inclut l'idée que quelqu'un va subir du racisme, ben aussi bien dire qu'on n'arrivera jamais à régler le racisme systémique. Si c'est ça la définition, y en aura toujours dans toutes les sociétés du monde, à travers toutes les époques, il y en a eu et il y en aura. Cette chose-là, pour moi, a relativement peu d'importance, pas que le racisme n'est pas important, mais quand on parle de racisme systémique, il faut voir dans l'ensemble comment le système répond à ces gens-là. Et dans notre système, il y a des lois contre le racisme dans le code civil, dans le code criminel, dans le code du travail, dans la régie du logement, à la commission des droits de la personne. Il y a 2 chartes qui protègent les gens, dont la charte québécoise qui a précédé la charte canadienne de 6 ans, même si on se fait toujours faire la morale par le Canada. Nous avons inventé ça avant eux autres. Et d'ailleurs, on a une charte plus complète des droits et libertés au Québec qu'au Canada. Donc, à partir du moment où le système répond, pour moi, ça devient difficile de classer ça dans la même catégorie que l'Alabama des années 50.
Oui. D'ailleurs, je t'ai cité ce matin, la page 190, je t'ai cité avec Philippe-Vincent Foisy, parce qu'il y a tout un passage où tu dis, en effet, tout ce que le Québec fait pour venir en aide aux minorités et aux différentes communautés culturelles, puis tu dis, dans le fond, on devrait plutôt parler au Québec d'ouverture systémique, puis tu dis, ça ferait du bien des fois d'entendre de la bouche de ceux qui en bénéficient à quel point c'est agréable et le fun de vivre au Québec. Ça t'écœure pas des fois que chaque fois qu'on entend parler du Québec, c'est toujours pour parler de racisme et c'est pas pour parler d'ouverture, de générosité, d'intégration, de vivre ensemble?
On est l'endroit dans le monde qui accueillons le plus de personnes de l'extérieur du pays. On est un des trois pays qui investit le plus en intégration sur la Terre. On a une histoire où on a accueilli des gens de partout dans le monde, peu importe leur confession religieuse, leur couleur de peau. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Absolument et totalement. Est-ce que c'est plus difficile pour certaines catégories de personnes de vivre que pour les Blancs? Je crois que oui aussi. Mais quand on se radicalise puis qu'on se crie des noms, ça règle rien. Des extrémistes ne règlent jamais rien. J'ai jamais vu, moi, quelqu'un juste... Puis pas juste par rapport à ces sujets-là, mais dans la vie, tu sais, si je te dis, mettons, « Ah, Sophie, toi, t'es une passive agressive. » Ça veut rien dire, ça. Puis là, tout ce que j'ai besoin là, dans notre chicane, c'est que tu reconnaisses, tu t'excuses d'être une passive agressive. Tu vas me dire, je comprends pas qu'est-ce que tu veux. Non, je vais plutôt dire, quand j'ai voulu serrer la main tantôt, tu m'as regardé, puis tu t'es retourné de bord sans me serrer la main, puis je comprends pas où tu... Ça, là, on s'attarde vraiment à quelque chose de concret, à un problème précis. Mais juste se crier des noms, c'est ridicule. Ça amène, non seulement ça amène à rien, ça amène à une polarisation dans la société qui fait que des gens qui se font défendre sans rien avoir demandé, des fois se mettent à se faire haïr, alors qu'eux autres, ils disent, ben moi, j'ai rien demandé à personne, puis là, il y a c'est des gens qui parlent en mon nom.
Ouais, c'est ça, c'est qu'on passe plus de temps à parler de concepts comme la culture du viol, l'appropriation culturelle et tout ça, au lieu de régler vraiment les problèmes, puis les gens qui défendent ces concepts-là veulent juste montrer à quel point ils sont formidables. Et regardez, moi, j'ai dénoncé la culture du viol. Ouais, mais concrètement, t'as rien fait pour empêcher qu'il y ait une fille qui se fasse violer à 4 heures du matin dans la ruelle. Ah oui, mais t'as montré à quel point t'étais extraordinaire. Écoute, dans ton livre, tu parles beaucoup de rectitude politique et depuis que ton livre a été publié, il y a eu évidemment plein d'autres exemples que tu aurais sûrement mis dans ton livre si tu avais pu. Par exemple, on a appris en fin de semaine que avant les matchs du Canadien, quand c'est des matchs ici à Montréal, qui vont reconnaître qu'ils sont en territoire non cédé, en territoire Mohawk. Qu'est-ce que tu penses? Ah, tu savais pas?
Non, je savais pas ça.
Qu'est-ce que tu penses de ça, Guy Nantel?
Ben, écoute, moi, je dis la même chose que tous les historiens qui sont pas des militants. Ce n'est pas un territoire Mohawk non cédé, quand même les politiciens répètent tout ça. C'est pas une réalité historique. Par contre, il y a eu des communautés iroquoiennes, plus de l'époque de Jacques Cartier, qui sont passées ici. Mais avec les poteries qu'on a retrouvées, ça correspond pas à l'historique. Et d'ailleurs, communauté Mohawk et Iroquoise étaient plutôt dans l'État de New York à cette époque-là. Fait que, de toute façon, moi, je pense que tout ce qu'on fait actuellement, c'est pas tant pour changer la réalité des Autochtones. Parce que si on voulait le faire vraiment, on mettrait un terme on prendrait des vraies mesures pour mettre un terme au vrai racisme systémique qui est fédéral, qui vient du Canada et qui...
La loi sur les Indiens.
La loi sur les Indiens, absolument, puis même, tu sais, bon, l'eau potable et des choses qui sont concrètes comme celle-là, mais juste en disant des trucs comme ceux-là, ben, je pense que les gens qui le disent en général connaissent peu leur histoire et s'intéressent absolument pas aux communautés autochtones, ils s'intéressent surtout à eux, puis c'est souvent de l'opportunisme politique.
Ouais.
Ça, c'est triste parce que ça fait rien avancer, c'est
absolument
une formule.
Ouais. Il y a une histoire qui circule depuis quelques jours, puis j'ai écrit là-dessus. C'est un humoriste américain très connu, Dave Chappelle, qui a fait un spectacle sur Netflix qui s'appelle The Closer, et il rit de, avec, bon, il fait des blagues sur l'identité de genre, il fait des blagues sur les personnes transgenres, et là, c'est rendu un scandale national. Il y a des gens qui veulent faire à annulé son spectacle. La direction de Netflix prend sa défense, mais ça prend des proportions complètement débiles. En plus, les gens difforment complètement les vrais propos de Dave Chappelle. Je me suis dit, ça, c'est une histoire parfaite pour Guy Nantel. Un humoriste qui est mal cité et qui se fait traiter de transphobe, ça doit te toucher.
Ben, c'est exactement ou à très peu de choses près ce que j'ai vécu.
Voilà.
Tu connais bien moi, cette histoire-là. Pour y être intervenu personnellement. Donc, comment dire, ce n'est qu'un début, Sophie. Ça va arriver de plus en plus avec de plus en plus de sujets. Parce que moi, j'ai déjà fait des jokes sur le curling, puis il y a eu des gens d'une association de curling qui se sont dit offensés. Fait que c'est pas une joke, là, je te jure. Je te jure, c'est vrai. J'avais fait ça à la radio avec Paul à l'époque. Puis là, tu dis, bon, mais à partir de ça, franchement, ça devient compliqué de... Si tout est annulé en fonction du fait que tu as blessé quelqu'un, puis c'est ça, hein, la phrase du ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault, qui avait dit « La liberté d'expression de un s'arrête à partir du moment où une personne est offensée. » Mais tu dis,
mais non, il n'y a rien compris.
T'as-tu réfléchi avant de dire une bêtise pareille? Je veux dire, à partir du moment où il y a une personne offensée, mais on ne peut plus rien faire nulle part. C'est dingue, ça n'a pas de sens. T'sais. Puis on l'a vu là avec La Petite Vie, avec la chanson... de Dire Straits, là, quand il
Money for Nothing, ouais.
Money for Nothing, qu'on peut plus diffuser sur les ondes canadiennes parce qu'il y a le mot faggot dedans. Ça, là, c'est tous des cas où il y a une seule personne qui s'est plainte. Fait que c'est quand même triste.
Ouais. Oui, c'est triste, mais on peut continuer à se décourager en lisant ton livre. Vraiment un livre important, un livre essentiel. Plein de réflexions. Je suis convaincue qu'il y a plein de gens dans la communauté, des artistes qui vont lire ton livre, qui vont trouver ça formidable, mais qui jamais iront le dire en public parce que être associé à Guy Nantel, c'est vraiment être associé au mouton noir. Guy, félicitations pour ton livre. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui.
Merci. Merci à toi pour l'entrevue puis pour le papier que tu en as fait aussi.
Il n'y a pas de problème. Tu m'enverras un petit chèque par la poste dans une petite enveloppe brune.
T'as eu un livre gratis, c'est déjà ça.
Ouais, ben là, il a fallu que je me batte pour l'avoir. Hey, non, c'est une blague. Guy Nantel, le livre offensant. Merci beaucoup.
Merci, salut.